Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 24 mai, bonne journée, bienvenue à l'antenne du 98.5 avec des températures autour de 15 degrés. Ce sera du temps couvert pour commencer la matinée. Les averses vont commencer aussi ce matin. Ça va se poursuivre en après-midi, 10 à 15 mm de pluie. Et le mercure devrait baisser un peu pour atteindre 12. L'indice UV est de 3 ou modéré. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux avec un minimum de 6. Demain, c'est le retour du soleil. Quelques nuages, 17. Vendredi, ensoleillé, 21. Et à partir de samedi, température extraordinaire, je vous le dis. Là, samedi, c'est du soleil, 25. Dimanche, ensoleillé, 28. Selon Environnement Canada, on va commencer la semaine prochaine là, avec deux journées ensoleillées, lundi, mardi, et 31 degrés. Je commence ce matin par tout le dossier des chantiers. On a beaucoup parlé de ce foutu bordel concernant la 20 et les blocages, les bouchons qui ont perturbé la circulation en raison de travaux. Hier, on a pu jaser avec le responsable des COM au ministère des Transports. Puis mettons des choses claires, là. Un, ce sont des travaux importants, nécessaires, qui prennent du temps. Deuxièmement, les automobilistes qui se déplacent la fin de semaine à Montréal particulièrement doivent aussi vérifier à quoi ressemble la carte des chantiers pour pas être pris ou être retardé inutilement. Mais je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, il y a une responsabilité du ministère de communiquer l'info. Et c'est pas parce que tu envoies un courriel à une des parties prenantes ou que tu téléphones à l'aéroport pour leur dire que tu fais un chantier, puis que tu envoies un communiqué ou que tu alimentes ton site web que c'est suffisant. Surtout quand il s'agit de chantiers majeurs. Hier, on a senti le mea culpa. La mairesse de Montréal a pris la rondelle, puis elle a lancé ça dans la cour du ministère des Transports en disant « Arrangez-vous pour ne pas perturber ma ville. » Remarquez que la ville est aussi responsable de bien des détours et bien des chantiers, mais ça, c'est autre chose. Et là, on nous annonce d'abord que pour le même endroit, à la fête du travail, c'est le même scénario. Ça, c'est important de se le rappeler. Et puis, on a annoncé que pour l'été, sur la 40 dans l'ouest de l'île, on va se retrouver avec des chantiers majeurs. C'est une saison extrêmement importante de chantiers. C'est comme ça tous les étés, et ça va continuer. Donc, sur la 40, c'est une entrave jusqu'au mois de décembre, et ça va commencer en fin de semaine. Alors, il faut juste être prévenu de ça. Mais, je le rappelle, c'est une réalité, les chantiers. Ils sont nécessaires pour réparer les infrastructures. Mais il y a comme une forme, je trouve, de négligence dans la communication. Et rappelons-nous que dans le cas de l'aéroport, ce qui est une aberration, là, il n'y a pas de lien autre pratiquement que la voiture pour se rendre à Montréal-Trudeau. Il n'y a pas de REM, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, il y a quelques autobus, et encore là. Donc, c'est une réalité, il y a des taxis, puis il y a votre voiture. Alors, c'est la seule façon d'avoir accès ou de quitter l'aéroport ici. Donc, ça, c'est pour le volet des travaux. Et comme il va faire beau en fin de semaine aussi, je rappelle qu'on a eu un week-end très lourd avec une dizaine de personnes qui ont perdu la vie sur les routes, des blessés graves également. Et ce matin, le Journal de Montréal revient sur l'histoire. Et quand on met un nom et un visage sur une victime, c'est important. Fabienne Houde-Bastien, on le disait hier, qui était sur le trottoir, puis un conducteur en état d'ébriété qui était avec un autre véhicule. Il y a eu un accident. Pour le moment de l'accident, un des véhicules a fauché Fabienne Houde-Bastien. Là, vous avez les témoignages des membres de sa famille qui sont bouleversés, qui rappellent qu'elle n'avait pas du tout le goût de conduire dans la vie. Elle se déplaçait en vélo, en bixi ou à pied. Transport en commun, sans doute. C'est une jeune femme de 31 ans. Et on l'a vu en fin de semaine, là, plusieurs cas d'accidents graves et malheureusement aussi de perte de vie. Parlons maintenant de Michael Sabia, qui va devenir le PDG de Hydro-Québec. Il va prendre les commandes. Tout le monde a lancé la nouvelle hier à peu près en même temps. Il faudra que ce soit confirmé par le gouvernement, j'imagine, dans les prochains jours. Mais c'est clair que Michael Sabia va donc prendre la direction de Hydro-Québec. Beaucoup de réactions. D'abord, pour les gens qui ne le connaissent pas, il faut rappeler qu'il a été le patron de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Travaillé chez Bell, restructuré l'entreprise, il y avait eu des mises à pied massives à l'époque, travaillé comme sous-ministre des finances, et donc un gestionnaire de haut niveau, habitué dans les grandes organisations. Et il semble, d'après ce qu'on peut lire, que c'est le premier ministre Legault qui a pointé son équipe vers M. Michael Sabia en disant « je le veux, président du conseil » ou encore comme PDG. Alors, c'est une nomination qui amène deux types de réactions. D'abord, les gens du secteur, je dirais, environnemental, plus préoccupés par une meilleure gestion de l'énergie, se disent « Michael Sabia ne connaît pas ce domaine-là. Il n'y a pas une expertise. Alors, comment il peut amener Hydro-Québec à prendre un virage? » Deuxièmement, comme il n'y a pas cette expertise, qu'est-ce que ça laisse sous-entendre pour l'avenir d'Hydro-Québec et quel sera le mandat que le gouvernement va donner? Est-ce qu'on a trouvé un opérateur qui va répondre aux besoins de Pierre Fitzgibbon? Dans le monde des affaires, il a une réputation impeccable. Et avec lui, la Caisse de dépôt a quand même progressé. Beaucoup d'investissements aussi à l'époque à l'étranger. Donc, c'est une réaction assez partagée. C'est un peu normal dans les circonstances. Mais c'est clair qu'il y a quand même un dessin là, qui, à travers ce qu'on a pu comprendre hier, se précise. C'est que c'est Pierre Fitzgibbon qui est le ministre. Il veut qu'on produise de l'électricité. Il veut que les consommateurs rationalisent, consomment moins. Puis il veut attirer des entreprises dans les parcs industriels pour gonfler l'économie du Québec. Et ça, c'est le mandat de Michael Sabia. Comment est-ce qu'il va amener Hydro-Québec dans cette direction? Puis on est aussi à l'étape des consultations, mais c'est quand même une décision importante qui a été rendue hier. Parlons maintenant du dossier de l'ingérence chinoise. Le rapporteur officiel indépendant, David Johnston, conclut que on n'a pas besoin d'une enquête publique. Il y aura des audiences publiques, c'est loin d'être la même chose. Donc, pas d'enquête publique parce que, dit-il, il y a trop de secrets. Et c'est très troublant. D'abord, M. Johnston était à la Fondation Trudeau, était gouverneur général. Je ne dirais pas que c'était un ami de Justin Trudeau, mais quand même un certain lien. Et M. Trudeau avait dit en le nommant, « Peu importe les recommandations, je vais suivre. » Là, M. Johnston nous dit, écoutez, il y a tellement de secrets. Au nom de l'intérêt national, de la sécurité nationale, on ne peut pas rendre ces informations publiques. Moi, je suis allé voir. Moi, je les ai consultées, les informations. Et faites-moi confiance. Oui, il y a eu de l'ingérence, mais ça n'a pas perturbé les élections. Oui, il y a eu des fuites dans les médias, mais incomplètes, qui ne donnent pas un portrait tout à fait juste. Et le rapporteur s'en prend aux médias, s'en prend aux sonneurs d'alerte, au fait que ces infos aient été publiques. Je veux juste rappeler que si le Globe and Mail n'avait pas mené le dossier, il n'y aurait pas eu de diplomate expulsé. On ne parlerait pas d'ingérence chinoise et le gouvernement canadien serait toujours avec cet esprit naïf où on laisse faire bien des choses au Canada que les autres pays s'équipe pour bloquer. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que des audiences publiques vont nous amener un peu plus loin? Je pense pas. On va en parler avec Jean-François Lépine tantôt. Quelle sera la réaction de la Chine? J'imagine satisfaite. Mais il est clair qu'au-delà de la politique, il y a une ingérence dans les affaires canadiennes à différents niveaux. Et c'est quand même particulier de voir M. Johnston s'en prendre aux médias qui ont sorti les informations, puis aux gens des services de renseignement. Alors, il a lui-même posé la question, sans trop y répondre, qui savait quoi et quand, et à quel moment? On n'a pas ces réponses-là. On nous dit, non, les politiciens ont été très corrects dans ça, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de... tout était bien géré. Comprendrez qu'on peut avoir un doute. On poursuit d'abord sur l'Ukraine, et Jean-François aussi va nous donner les derniers développements tantôt, mais essentiellement, on peut dire que une partie de la ville assiégée de Bakhmout reste encore sous contrôle ukrainien, mais les Russes disent avoir, disons, la situation bien en main. Vous savez qu'il y a eu également des attaques qui ont été menées, des attaques des groupes armés là qui ont revendiqué l'attaque depuis l'Ukraine dans un territoire russe qui s'appelle Belgorod, et c'est la plus grave incursion depuis le début de la guerre. Donc, ce serait parmi les troupes des gens associés à la Légion de la Liberté de la Russie qui auraient agi avec le corps des volontaires russes. Et puis, dans les dernières heures, il y aurait eu des opérations de drones également. Nombreuses attaques dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, on pourra détailler ça, évidemment, tantôt. On va parler de politique un peu. Ah, mon Dieu Seigneur. D'abord, hier, on a attaqué, c'est Radio-Canada qui parlait qu'il y avait une consigne du silence qui avait été imposée aux députés de la région de Québec concernant le troisième lien. Vous broyez, vous vous plaignez au caucus, les portes fermées, mais à l'extérieur, pas un mot, pas de déclaration malheureuse dans les médias. Faut pas afficher une faille dans la belle unanimité de la CAQ. Puis là, j'entendais des commentaires hier de gens qui étaient outrés, des partis d'opposition, c'est épouvantable, puis on n'a pas le droit de parler, puis le député ramenait un rôle de porte de valise, puis bon. J'ai trouvé ça un tantinet hypocrite. Hypocrite parce que dans tous les partis, la ligne de conduite est la même. Régler les cas au sein du caucus. Un député qui est frustré a deux choix. Débattre au caucus, exprimer son indignation, essayer de faire changer la décision avec d'autres, ou se retirer du parti pour des raisons de principe. Puis ça s'est vu dans l'histoire. René Lévesque a connu ça avec Jacques Parizeau à l'époque, sur l'enjeu de la souveraineté. On a vu également Pierre Curzi, Mme Lapointe aussi, qui avait quitté les rangs du Parti québécois. Le Parti québécois, ça brassait pas mal sur ces questions, disons, davantage de principes. Et sur des questions aussi linguistiques, Robert Bourassa a perdu des plumes. Mais il n'y a pas un chef, personne ne va me faire croire que Québec solidaire là, va accepter comme ça la dissidence. Vincent Marissal sortirait du lot puis planterait... Non, pense pas moi que ça passerait. Ils trouvaient ça un peu hypocrite. Pour ce qui est de l'augmentation de 30 % là, de 30 000 $ des députés et des ministres, là, le premier ministre dit, moi, peut-être vous passez ça sous baillon parce qu'il faut que ça soit réglé. C'est toujours la même chose. Il y en a qui sont outrés, puis c'est épouvantable. Mais la CAQ a cette capacité d'échapper des dossiers. D'abord, tu ne te votes pas une augmentation substantielle, même si elle est justifiée, sans revoir le système de pension, puis en pleine négociation avec les employés du secteur public. Tu sais, l'expression, je l'ai dit la semaine passée, « le timing is everything ». Là-dessus, ils l'ont pas pantoute. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le premier ministre a dit hier qu'un politicien, puis il a raison, ça a le droit d'aller gagner le plus possible pour donner à ses enfants plus tard. Puis c'est exigeant. Là, quand j'entends le whip qui n'était pas disponible ce matin, en passant, M. Éric Lefebvre, qui dit qu'il doit faire des sacrifices personnels en raison de son travail, parce que son comté est grand, il y a bien des associations de la FADOC, bien des journées spaghetti, des ventes de garage, puis il se promène. Puis il fait une journée par année où il regroupe ses amis en disant « Je m'excuse de ne pas être plus souvent avec vous. » Il est allé voir sa mère une fois. Là, tu dis « Arrêtez-moi ça de broyorama, là. C'est pas parce que tu as 30 000 de plus par année que tu vas aller voir ta mère plus souvent, là. » Tu sais, ce genre, on veut pas savoir ça. Oui, les députés travaillent, pour la plupart. Oui, les députés travaillent beaucoup d'heures. Peu importe le parti. Mais ces augmentations passent difficilement. Moi, je pense que c'est mérité, qu'ils ont droit à ça, mais qu'il y a des amendements à faire. C'était pas une journée grandiose hier, pour tout dire, concernant la politique au Québec. Il y a le dossier de Kanesetake, on a vu dans les derniers jours des manifestations. Puis le message est assez clair, là. Ce que les citoyens disent, arrêtez de jouer au ping-pong avec nous. Et ça, ça vise Mark Meller, le ministre responsable des Affaires autochtones au fédéral, et Québec. On va parler avec le ministre Yann Lafrenière tantôt. Les gens, qu'est-ce qu'ils vivent à Kanesetake? D'abord, une présence criminelle étouffante. Les frères Gabriel ont pris le contrôle de ce dépotoir, ont reçu et reçoivent peut-être encore, on ne le sait pas, des produits toxiques qui se ramassent dans l'environnement puis qui finissent par aboutir dans un ruisseau qui tombe dans le lac des Deux-Montagnes. Et ça dure depuis des mois, pour ne pas dire des années, et il se passe pas grand-chose. Ça a pris une enquête de la presse pour en savoir plus long, c'est-à-dire alors qu'on a survolé avec des drones les sites contaminés. Puis en plus, chicane, querelle politique à l'intérieur, finalement, de la structure du Conseil de bande. Également, il y a une coalition québécoise de jeux en ligne qui vient d'être créée. Ça, c'est pour faire comme en Ontario et amener Québec à briser le monopole de l'Auto-Québec pour le jeu en ligne. Alors, vous retrouvez les Poker Stars, vous retrouvez les Bet99, Games Global et autres qui disent, nous, là, on va payer un joli permis puis on va vous donner 20% des profits comme en Ontario. Puis d'ailleurs, l'Ontario a fait 300 quelques millions, puis il y a même un groupe de travail au Québec qui a recommandé qu'on intègre ce qui est illégal pour éviter que ça prolifère. D'abord, ils nous prennent un peu pour des valises en disant que nous souhaitons, et je cite leur communiqué, un cadre réglementaire efficace du jeu en ligne qui assure la sécurité des consommateurs et favorise le jeu responsable. Ça s'appelle de la fribe. J'en pourrais pas le mot en anglais, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pensez-vous que Bet99 fait la promotion du jeu responsable? Mais non. Ils veulent maximiser le cash. Puis le jeu en ligne responsable, là, c'est une contrainte dans la vie, ça. Fait qu'il faut pas prendre trop pour des imbéciles. On a vérifié que l'Auto-Québec, ils vont réagir plus tard, ministre des Finances également. Mais en Ontario, c'est la seule province, sauf erreur au Canada, qui fait ça, mais c'est également assez contesté. Et puis, je vais terminer en vous parlant des États-Unis, parce que, tu sais, quand on parle du vent de droite qui souffle, aujourd'hui, il y a le gouverneur de Floride, DeSantis, qui va annoncer qu'il se lance dans la course à la Maison-Blanche. Il fait ça avec Elon Musk sur Twitter. Et DeSantis, c'est quelqu'un qui a pris toutes sortes de décisions en Floride, qui s'en prend aux transgenres, les drag queens, une obsession, toute la question de l'avortement également. Alors, tu sais, il a dit, voici, je suis quelqu'un de droite, mais moins fou que Trump, et moi, je peux le remplacer. Puis au même moment, toujours aux États-Unis, la Caroline du Sud a passé un règlement qui interdit l'avortement après 6 semaines. Sauf dans les cas d'inceste, d'agression sexuelle et de viol. Et ça, il y a un délai de 12 semaines qui est permis. Et là, il y a des sanctions pour la femme, pour les spécialistes, les professionnels qui feraient des avortements. Juste pour vous dire en terminant là, qu'il y a 25 États américains qui, depuis un an, ont fait reculer pour les femmes américaines les droits ou le droit à l'avortement et l'accès à l'avortement. Deux choses, ça. Le droit de se faire avorter et d'y avoir accès. 25 États américains, à peu près la moitié du pays, où les femmes perdent des droits importants, dont celui de se faire avorter.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Ce centre de recyclage à Kanisitake, qui est en fait un dépotoir, on va se le dire, suscite énormément d'inquiétudes au sein de la population. Et si on résume les faits, il y a un conseil de bande qui est divisé. Les frères Gabriel, qui sont propriétaires de ce centre, intimident la population. Il y a un climat de terreur qui existe dans la communauté. Et c'est pas d'hier, là, ça date de la crise d'Oka. Il y a une pègre autochtone qui se manifeste. Je sais que le mot peut choquer, mais c'est une réalité. Et on a vu hier des citoyens dire, écoutez, ce ping-pong entre Ottawa et Québec, ça fait des mois et des mois que ça dure. Et nous, on vit avec ce dépotoir qui se déverse avec ses matières toxiques dans un ruisseau, puis ça coule jusqu'au lac des Deux-Montagnes. Et même l'expression a été utilisée par ces citoyens qui disent que c'est du racisme environnemental à Kanisitake. J'en parle ce matin avec le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière. Yann Lafrenière, bonjour.
Oui, bonjour à vous, M. Arcan.
Bon, d'abord, depuis quand vous êtes au courant là de ce problème à Kanisitake?
Depuis mon arrivée en poste, je vous dirais, ça fait déjà plus de 2 ans. C'est un enjeu qui est important. Puis vous l'avez bien résumé tantôt, hein. C'est ce qui se passe sur place, c'est préoccupant. On a réussi à faire cesser ce qui était du déversement à cet endroit-là. On a, avec le ministère de l'Environnement, avec mon collègue Benoît Charrette, on a réussi à faire cesser ça, entre autres avec les contrôleurs routiers. Parce que c'est vrai que c'était utilisé pour faire du dumping, un dépotoir complètement à ciel ouvert. Alors si on a réussi à le faire, à faire arrêter ce déversement-là, là maintenant ce qui reste en place, c'est le passé, c'est ce site-là qui n'a pas été décontaminé. Puis c'est là-dessus, effectivement, qui est extrêmement difficile à agir. Puis vous avez parlé du ping-pong entre le fédéral et le provincial. Je vais vous rajouter un élément. Moi, j'ai un conseil de bande présentement qui est dysfonctionnel, où je suis pas capable d'avoir de leur côté même une résolution pour retirer les droits aux frères Gabriel. Donc, imaginez un instant, là. Le matin, on agit, on décontamine, les gens demeurent propriétaires, puis ils recommencent à faire du dumping après ça.
OK, mais.
Vous allez tous être très, très, très déçus de notre agissement.
Bon, moi, je veux commencer par les deux frères Gabriel, là, Gary et Robert Gabriel, là. Vous me dites, ils ont cessé de recevoir du stock. Êtes-vous vraiment sûr de ça ou si le stock est déposé ailleurs?
Je sais que sur le site, il n'y a pas de stock. Cependant, une autre chose, je vais être bien transparent avec vous. Ce que j'ai appris aussi, parce que j'y vais quand même assez fréquemment, puis je suis en lien avec le grand chef au quotidien, il y a encore des individus sur leur terrain privé qui acceptent de recevoir de la terre contaminée.
OK, il y a encore des matières contaminées qui sont acheminées vers le site.
Il y a des sites, non, pas vers le site, il y a des sites privés. Vous demeurez à un endroit okay. X, vous acceptez qu'un camion vienne déverser sur votre terrain pour une somme Y. Ça existe encore, malgré le fait qu'on travaille avec les contrôleurs routiers, malgré le fait que le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans. Puis je vous le cacherai pas, il y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Fait que je suis transparent avec vous, M. Arcan.
OK. Depuis que vous êtes en poste, c'est bien beau, là, identifier le site, mais est-ce qu'on sait qui sont les gens qui viennent domper leurs produits toxiques à Kanisitake? Est-ce que vous avez une liste d'entreprises, de camionnages, d'entreprises qui se sont débarrassées illégalement de leurs matières comme toxiques et dangereuses?
Je sais que du côté de l'environnement, il y a des constats qui ont été mis, il y a des gens qui ont été accusés. Je n'ai pas les détails, moi, mais je sais que ça a été fait.
OK, mais est-ce qu'on a un nombre d'entreprises? Est-ce qu'on savait s'il y a eu des sanctions? Est-ce que c'est bien beau attaquer le site?
Il y a eu des sanctions. Attendez, M. Arcan, moi, je sais qu'il y a eu des sanctions, mais si vous me demandez, moi, est-ce qu'il y a un entraîneur, je sais, la réponse, c'est non.
Et vous dites qu'encore, il y a un certain transit de terres contaminées vers Kanisitake.
Il y en avait l'été passé. Depuis le printemps, je n'ai pas vu moi-même. Mais l'année passée, avec le grand chef, j'étais allé voir certains endroits où les gens avaient même mis des affiches là, devant leur terrain. Vous savez comment ça fonctionne en banlieue, la terre acceptée, mais on sait très bien ce qui se passait. Il y a un montant d'argent qui est remis à ces gens-là, puis on sait que c'est arrivé.
Est-ce que des gens de votre ministère, les contrôleurs routiers, du ministère de l'Environnement, n'importe qui là, qui émane de l'appareil gouvernemental du Québec, a subi des actes d'intimidation en faisant leur travail sur le territoire?
Je sais que du côté de Kanisitake, du côté du conseil de bande, ils ont un groupe qui leur job, c'est de faire appliquer les normes environnementales, et je sais qu'ils ont eu des temps très difficiles. Pour ce qui est de mon ministère, non. Du côté des contrôleurs routiers, je suis prêt à répondre aujourd'hui, mais je sais que du côté de la structure environnementale de Kanisitake, oui, c'était dur pour eux.
OK. À votre connaissance...
En passant, oui. Certains, je sais, parce que je les ai rencontrés. Je me suis présenté sur place. Puis, pour la petite histoire, là, vous savez, ça monte à plus de 30 ans ce qui se passe à Yannis Attaqué. Puis, j'essaie pas de m'en sortir en vous disant, là, c'est un problème du passé. Juste vous dire que c'est une situation qui est complexe. Moi, aujourd'hui, ce qui a changé, cependant, c'est que pour la première fois, je vois des gens qui sortent pour dénoncer cette situation-là de l'interne même de la communauté 1. Et ça, c'est rassurant pour moi. Parce que dès mon arrivée en poste, j'ai rencontré les deux conseillers de vente, celui actuel et l'autre qui était là avant avec Serge. Et écoutez, on essayait de proposer des façons différentes de travailler, d'amener plus de sécurité. Dernier conseil de vente, j'avais un ancien membre de la GRC qui était là. Je me suis dit, enfin, la lumière au bout du tunnel, il va accepter. Puis ça a été la personne la plus réfractaire à faire quelques changements que ce soit. Là, aujourd'hui, j'ai un grand chef qui se lève debout, qui dit, Yann, il faut nous aider. J'ai un ancien grand chef, les deux, ça me parle pas, ça, là, mais qui dit la même chose. Fait que là, on a une lueur d'espoir. C'est pour ça qu'avec ma collègue du fédéral, on rencontre un grand chef la semaine prochaine. On espère arriver avec une piste, et pour le site GNR Recycling, c'est vrai, mais pour la communauté aussi, parce que présentement, je vous dis, même pour donner de l'argent pour aider une entreprise à Yannis Attaqué à faire quoi que ce soit, je suis pas capable, j'ai pas de résolution du conseil de banque. C'est complètement dysfonctionnel.
Okay, mais...
L'ancien policier en moi, M. Arquin, vous dit que quand c'est dysfonctionnel de même, ben, c'est une porte ouverte pour des individus sans scrupules, pour des gens criminalisés. Puis, je vous ai entendu avec le terme « peuple autochtone », oui, il y a des gens criminalisés du côté autochtone, mais je vous dirais que ça allait passer. On a des gens criminalisés qui viennent de l'extérieur qui profitent de ces situations.
Mais non, mais ça, c'est toujours, puis ça a été ça, comme vous dites, depuis 30 ans. Là. Il y a des gens qui utilisent ces corridors ou ces zones protégées, ou en tout cas, où il y a une certaine autonomie pour faire de la business. Ça, c'est clair. Mais l'autre question,
ouais.
Vous le savez depuis 2 ans, mettons, à peu près, avec Mark Miller, là, le ministre fédéral responsable du dossier autochtone, là, il arrive quoi? Moi, je me mets à la place des gens de Yannis Attaqué, là, puis je pense que les deux gouvernements sont visés par leurs propos quand ils parlent de ping-pong, là, puis que ça débloque pas, puis ça avance pas.
Non, je les comprends, puis je comprends leur réaction, parce que j'ai des citoyens de Yannis Attaqué qui m'écrivent des courriels, on est en lien ensemble, ils me disent ce qui se passe, puis ils le décrivent, puis comme je vous dis, d'un côté, je suis heureux, parce qu'enfin, ça se passe comme ça. Mais vous savez quelle situation on vient à Yannis Attaqué. Alors, d'arriver, nous autres, du jour au lendemain, puis d'imposer notre façon de faire, ça passait pas. Il fallait travailler avec le conseil de banque. Puis là, enfin, je vous le dis, enfin, je sens cette volonté-là qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse faire quelque chose. Parce que je reviens à la base, là, GNR, les deux frères, là, on peut pas décontaminer le site s'ils demeurent propriétaires, puis ils recommencent à recevoir de la terre contaminée. On ferait de nous autres tout le monde, mais ça n'a pas d'allure.
Ils sont toujours propriétaires du site.
Présentement, là, c'est un terme technique, là, ça s'appelle la OCA letter. Il y a une lettre qui doit être retirée. Ce qui nous permettrait au fédéral et au provincial d'agir, tout en s'assurant qu'ils ne retournent pas ces lieux après.
Est-ce qu'on a évalué le coût de la décontamination?
J'ai lu des chiffres, mais honnêtement, moi, j'ai pas d'évaluation à mon niveau, mais c'est plusieurs millions. C'est sûr que ça va coûter une fortune. Mais imaginez, là, je reviens encore à base. On met des millions de l'argent des concitoyens pour décontaminer. Les gens demeurent propriétaires, puis ils recommencent leur business qui leur a donné de l'argent. Là, il ferait d'une autre, puis il ferait d'une autre. Puis je pense pour l'ensemble de la communauté. Là.
OK, mais Québec va ramasser, ou Ottawa, Québec, ou bon, en fait, les gouvernements.
C'est une terre fédérale, puis ça, c'est quelque chose qui est moins connu. Quand on parle des communautés autochtones, puis je comprends quand des gens réagissent en disant une game de ping-pong, en disant, écoutez, c'est au Québec, vous n'agissez pas. Faut juste comprendre qu'en vertu de la loi sur les Indiens, c'est une terre fédérale. Moi, mon travail, quand je suis en zone urbaine, puis on peut parler de d'autres endroits au Québec, en zone urbaine, j'ai pas mal la capacité d'agir, mais dès qu'on est sur une communauté, en terre fédérale, c'est très limité de mon côté, ce qu'on a, nous autres, le Québec, comme levier pour agir.
OK, mais juste pour que ça soit très clair, là, ça veut dire que les frères Gabriel, d'après ce que je comprends, paieront pas un sou pour la décontamination?
Ben là, écoutez, rendu là, à savoir est-ce qu'on va les poursuivre, est-ce que le fédéral va les poursuivre, qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas, mais là, ce qu'il y a urgence d'agir, c'est un, il faut l'arrêter, les déversements, c'est fait, mais là, il faut même protéger de façon temporaire, mais je vous dis, d'agir sans avoir minimalement l'accord là, du conseil de banque pour travailler à cet endroit-là, c'est impossible.
Si c'était pas sorti dans la presse, là, je suis pas sûr qu'on s'en parlerait.
Ben, je vous dis, ben honnêtement, là, je comprends que pour la majorité des citoyens, c'est sorti récemment, mais moi, depuis mon arrivée, j'ai 3 dossiers qui me hantaient, puis ça, c'est un des 3 dossiers importants. Yannis Attaqué, j'ai été nommé au mois d'octobre. La première personne que j'ai nommée, Paul Girard, un ancien policier de la Sûreté du Québec, un ancien sous-ministre, une personne en qui j'ai extrêmement confiance, que j'ai nommé comme négociateur facilitateur à Yannis Attaqué, c'était le premier geste que j'ai posé. Parce que ce qui se passe à Yannis Attaqué, ça nous préoccupe comme gouvernement. Puis je voulais être sûr d'avoir quelqu'un de confiance sur le terrain. Moi, j'ai rencontré les chefs, le grand chef passé, Le grand chef actuel va essayer de proposer, de trouver des solutions. Mais je vous le dis, c'est sûr que de défaire tout ce qui s'est passé en 30 ans, quelques semaines, c'est dur. Mais moi, je baisse pas les bras. Et aujourd'hui, de voir qu'il y a des citoyens qui parlent haut et fort, de voir même qu'il y a des élus qui sortent en disant c'est assez, honnêtement, pour moi, c'est le début de quelque chose.
On va suivre ça. Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Yann Lafrenière, qui est le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Maintenant, une histoire assez incroyable. On a résolu un meurtre qui a été commis il y a 48 ans. C'est une adolescente, Sharon Pryor, qui avait été portée disparue. Elle s'en allait dans un resto avec des amis. Et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard sur un terrain vague. Et à l'époque, on avait collecté des éléments de preuve, mais incapable de faire un lien, par exemple, d'ADN. Et puis, ce qu'on appelle des cold cases qui sont réactivés avec des nouvelles approches technologiques ont permis, justement, de trouver qui est le responsable de l'auteur de ce meurtre. Deux invités pour en parler. Pierre Duquette est l'inspecteur en chef de la division des crimes majeurs au service de police de Longueuil. Monsieur Duquette, bonjour.
Bonjour.
Et Éric Racicot, qui était le sergent détective en charge de l'unité des meurtres non résolus. Monsieur Racicot, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Monsieur Duquette, je commence avec vous. Ce dossier-là, qu'est-ce qui a été vraiment la clé là, qui a permis de faire débloquer le tout?
Bien, la clé principale, c'est les avancées technologiques. Bien, il ne faut pas oublier que sans le laboratoire des sciences judiciaires de médecine légale de Montréal, le département de biologie principalement, jamais on aurait pu aller aussi loin dans cette enquête-là. C'était vraiment un travail d'équipe entre eux et notre équipe des cold cases.
OK. Monsieur Racicot, le point de départ, c'est quoi, là? Vous aviez de l'ADN qui était tiré de la scène de crime?
Exactement. Non seulement on avait l'ADN qui avait été retrouvé sur des pièces de vêtements, mais dans le fond, globalement, on avait trouvé également l'ADN du tueur à plusieurs endroits sur la scène de crime. Donc, c'était déjà une bonne enquête de base là pour poursuivre un peu plus loin pour retracer le tueur.
Est-ce que je comprends qu'à l'époque, pour avoir une preuve ADN, ça prenait beaucoup de matière, alors qu'aujourd'hui, on en a besoin de un tout petit échantillon?
C'est exactement ça. Vas-y, Rick.
Oui. Oui, effectivement, on a vraiment constaté là une très grande évolution de la biologie judiciaire là, dans les 50 dernières années. Donc aujourd'hui, on peut faire plus avec moins.
Et comment vous remontez à partir de cet ADN jusqu'à cet Américain là qui est mort en 1982?
Bien, premièrement, l'ADN qui provenait de la scène de crime nous a permis d'obtenir le profil du tueur. Ce profil-là a ensuite été versé dans des sites de généalogie génétique publique, comme FamilyTree DNA et GEDmatch. Et par la suite, on a obtenu des résultats qui nous ont permis de reconstruire l'arbre généalogique du tueur. On est remonté jusqu'à l'ancêtre commun pour redescendre ensuite pour obtenir différents suspects, ce qui nous a amené à une famille de 8 personnes, dont 4 hommes. Et ensuite, on a procédé par élimination jusqu'à arriver au tueur.
OK. Et le tueur a séjourné à Montréal. Il est mort d'ailleurs à Verdun, là, mais a séjourné à Montréal. Il était dans le coin au moment de la disparition et du meurtre.
Exactement. C'est là que l'enquête classique embarque dans le dossier. C'est-à-dire que nous, on était en mesure d'établir qu'il était en lien avec le lieu d'enlèvement de Sharon Pryor, le lieu où la scène de crime où elle a été retrouvée, mais également, il y avait plusieurs liens, dont un qui était vraiment incroyable, c'est-à-dire que le tueur avait acheté un véhicule à deux coins de rue de la résidence de Sharon Pryor en 1975.
Est-ce qu'à l'époque, Franklin Roaming avait été suspecté? Est-ce qu'on avait, des témoins qui auraient pu peut-être l'identifier ou il était vraiment passé sous le radar?
Il était vraiment passé sous le radar à 100%. Jamais ce nom-là, parmi les 130 suspects qu'on avait dans le dossier depuis 48 ans, jamais le nom de Roaming était sorti.
Incroyable. Et quand vous avez fait une demande aux États-Unis pour procéder, pour qu'on puisse exhumer le corps, ça a été quoi la réaction des Américains? Ils collaborent beaucoup, ils sont réticents?
On a eu une collaboration extraordinaire. On a fait affaire avec plusieurs agences américaines, dont le FBI, le procureur de l'État de Putnam County en Virginie-Occidentale, pour aussi procéder par élimination d'ADN, on a prélevé l'ADN des deux frères, dont un en Floride et un en Virginie occidentale. Et tout au long de ce procédé-là, on a vraiment eu une collaboration là, hors pair.
Je ne sais pas lequel des deux peut répondre, mais parlez-moi de la réaction de la famille. D'abord, est-ce qu'on les tenait au courant au fur et à mesure? Est-ce qu'on a attendu d'être sûr? Comment ça s'est passé, cette relation avec la famille Pryor?
Bien, je peux commencer, Éric, partir du début, parce que la relation dure depuis 48 ans. Il faut comprendre que beaucoup d'enquêteurs, la plupart sont retraités même aujourd'hui. Ils avaient un lien très, très, très proche avec la famille. D'ailleurs, on a invité les enquêteurs retraités hier à rencontrer la famille. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup. Puis Éric, par la suite, continue avec votre volet à vous.
Oui, bien, c'est sûr que du moment où on a senti qu'on avait une piste solide pour retracer le potentiel tueur, on a tenu un entretien un peu plus serré avec la famille. On les tenait au courant là de façon hebdomadaire de ce qui se passait, des différentes étapes d'enquête, de ce qu'on faisait comme travail. Puis c'est sûr que pour eux, ça a été une montagne russe d'émotions parce qu'ils attendent depuis tellement longtemps d'avoir cette réponse-là. Puis au fil du temps, je vous cacherai pas que à chaque fois qu'il y avait un nouveau suspect, il y avait un nouvel espoir. Puis malheureusement, on devait leur annoncer que c'était pas le bon, mais cette fois-ci, c'était pas le cas. On avait définitivement trouvé la bonne piste d'enquête. Donc pour eux, on espère juste là, que ça va leur permettre de poursuivre leur deuil puis de retrouver une certaine forme de paix d'esprit.
Il y a combien de cold cases à Longueuil?
On en a 30. Bon, on en avait 37. On est rendu à 36 à partir d'hier. Puis on s'attend d'en fermer peut-être un autre cette année, on espère. Et la moyenne, on vise le 2 à 3 maximum par année. Par la suite.
OK. Est-ce que vous pouvez me dire sur lequel vous travaillez actuellement?
Non.
Je m'essaie.
C'est une très bonne question, mais on en travaille en fait 3 de front actuellement. C'est 3 bons dossiers auxquels on croit, mais on les fermera pas les 3 dans la même journée, on s'entend. Là.
OK, mais qu'est-ce qui fait que celui-là, vous le prenez, puis que l'autre, le 8e, va attendre?
Ben c'est notre comité, en fait, avec les deux enquêteurs des cold case, qui est Eric Rasco et Candide Auteuil, et la lieutenante, qui est Sophie Touga, et moi, et l'inspecteur Jean-François de la police. On se réunit, puis on regarde selon l'âge de la victime, si c'est un crime odieux, si ça n'est pas, si les chances de succès aussi, les tests à conviction, est-ce qu'ils ont été bien gardés, est-ce qu'on a des chances d'avoir de l'ADN sur tel morceau. Alors, c'est une analyse relativement difficile, complexe, des fois un peu brise-cœur, parce qu'on voudrait tous les travailler en même temps. Mais on peut pas, malheureusement.
Ben, bravo. Bravo à toute votre équipe. Mais merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Éric Rasico, sergent détective qui est en charge de l'unité des homicides non résolus du service de police de Longueuil, et Pierre Duquette qui est l'inspecteur chef de la division des crimes majeurs.
L'essentiel de Paul Arcand.
Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a dit hier, il s'en est pris en pratique, là, envers certains médias, certains partis politiques qui font une campagne contre l'immigration. On l'a vu dans les dernières semaines. Et présentant l'immigration comme une menace. Il est avec nous ce matin. Monsieur Rodriguez, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
De parler d'immigration puis de faire un débat, c'est correct de faire oui. Ça, puis c'est normal de discuter de combien d'immigrants par année, quelle sorte de procédure d'accueil on a. C'est une absolument. Discussion légitime, vous êtes d'accord avec ça?
100%. Tant que c'est basé sur des faits et les prémices sont bonnes. Moi, je faisais référence en particulier à un article du Journal de Montréal qui disait le Québec est pris au piège. Et là, ce qu'il disait dans cet article-là, une série d'articles, c'est que l'initiative du siècle, là, qui est une politique d'un groupe d'amis qui se rencontrent, là, était la politique du gouvernement du Canada. Ce qui est absolument pas le cas. Ça l'a jamais été et ça le sera jamais.
C'est quoi la politique du gouvernement du Canada? C'est combien d'immigrants par année?
C'est à peu près 1%. Là, on est à peu près 1,2% par année. Donc, actuellement, cette année, l'année passée, c'était 405 000. Cette année, 465, 485 l'année prochaine. Donc, à peu près 1,1, 1,2% de la population. Ce qu'on a généralement fait, ce qui vient pas changer le tissu social, ces gens-là s'en viennent ici s'intégrer. Comme moi, M. Arcand, je le sais, je le dis souvent, mais je parlais pas un mot de français quand je suis arrivé ici.
Non, mais ça, je veux comprendre en termes de chiffres. Est-ce qu'on se trompe si, année après année, là, vous me dites 485, c'est 1,5 million de nouveaux arrivants?
Ouais.
S'ajoutent les étudiants étrangers, j'imagine. S'ajoutent des gens qui sont en attente de statut. Au Québec, là, quand on parle de 75 000, on parle de 300 000 personnes dans les faits.
Mais ça dépend. Québec, par exemple, pourrait dire j'ai déjà 300 000 personnes sur mon territoire qui sont déjà logées, qui travaillent, qui sont intégrées. Je pourrais les prendre puis en faire partie de mes objectifs. Donc, ça pourrait faire partie de ses propres objectifs. Pas de les augmenter, mais de prendre ces gens-là qui sont déjà ici, ce qui vient régler un problème de logement et autre chose également. Donc, mais encore une fois, c'est autour de 1% de la population, M. Arcand.
Est-ce que le Canada est le pays qui accueille, ou parmi les pays qui accueillent le plus d'immigrants?
Oui, je sais pas si on est le plus, probablement pas.
Mais parmi les pays où...
Oui, absolument. Ah oui, absolument. Mais on a réussi à bâtir cette société-là, où on accueille les gens, on les intègre, ça nous renforce. Vous savez, il y a, puis il faut faire des choix, là. Il y a 50 ans, il y avait 7 travailleurs pour une personne qui prenait sa retraite. Là, c'est à peu près 3 pour 1. Puis dans 15 ans, ça va être 2 travailleurs pour une personne. On aurait pu moyenner nos ambitions. Un, qu'est-ce qu'on dit aux entreprises qui cherchent du monde de travailler? Puis deux, qu'est-ce qu'on dit à Armand, qu'est-ce qu'on dit à Louise qui ont travaillé toute leur vie, là? Puis on leur dit, désolé, on n'a plus d'argent pour payer votre retraite parce qu'on a eu peur de l'immigration.
Moi, j'entends des gens qui sont des économistes, qui sont pas des gens là, qui se promènent avec l'épouvantail de l'immigration, mais qui disent que c'est faux de prétendre que l'immigration va régler le problème du logement puis de la pénurie d'emploi.
Vous avez raison. L'immigration, c'est pas un panacée, c'est pas quelque chose qui vient tout régler. Mais encore une fois, vous avez des solutions comme les gens qui sont déjà ici, mais on n'en fait pas beaucoup de bébés. Nos entreprises manquent de travailleurs, puis on n'a pas de gens pour payer les fonds de retraite. Alors, quelle est la solution ou une des solutions? L'immigration.
C'est pas vous le ministre, mais votre gouvernement là, ça fait dur pour gérer les dossiers d'immigration.
Bon, on n'a pas été.
Non, vous êtes encore nul.
Ben, pas fort. Ouais.
Non, mais sérieusement là.
On pourrait faire mieux.
Tous les jours, j'ai des cas de gens qui sont ici, puis vous avez sans doute des dossiers dans votre bureau de comté, oui. 2-3 ans dans l'attente d'un statut. Des gens qui parlent français, qui travaillent ici, qui ont même eu des enfants ici. Mmh. Puis qui sont pas capables d'avoir un statut qui a de l'allure.
Ouais,
les procédures traînent, des étudiants africains qu'on repousse, ça a l'air que... Vous avez le cœur ouvert, mais vous avez pas l'espace puis la capacité de recevoir tout le monde.
Ben, on peut faire définitivement mieux. Je vous contredis absolument pas, M. Arcand. Vous avez raison, on peut faire mieux. Puis j'en ai discuté avec mon collègue en immigration. C'est quelque chose qu'on discute souvent autour de la table du cabinet et à Ottawa. On est en train de s'améliorer. On peut faire mieux parce que on a besoin. Puis ces fameuses promesses qu'on fait, il faut qu'on soit capable de les tenir également. Là.
Ok, mais ça c'est un discours comme vous faites là. Moi je veux
non,
bien.
Non, il y a du travail qui se fait à Ottawa actuellement. Là. Par exemple, la question des étudiants francophones africains, ben on est passé de 27% à cette année 41% d'acceptation. C'est suffisant? Non, mais on vient de faire un bout. Là maintenant, faut continuer.
Mais la machine est lourde.
Oui.
Il y a des gens qui s'intègrent.
Mais
prendre un exemple. Les sans-papiers, là, il y a une manifestation à Montréal ce matin, là, de sans-papiers qui disent, là, Trudeau, là, il se fait aller dans la campagne électorale, là, le cœur sur la main, puis on va régulariser le statut de tout le monde. Puis dans les faits, il se passe rien.
Non, mais attendez, mais on a aussi un processus d'immigration qui est rigoureux, là. Il y a toutes sortes de vérifications. On ne skippe pas les étapes non plus. On veut des gens qui viennent chez nous, mais il faut suivre le processus. Et on a aussi les mêmes défis que tout le monde, M. Arcand. La pandémie a affecté énormément le fonctionnement du gouvernement. On a perdu beaucoup d'employés, on a beaucoup à la retraite. On essaie de recruter, on est en compétition avec le secteur privé. Fait que, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Puis est-ce qu'on va faire mieux? Moi, je vous dis que oui.
Mais est-ce qu'on peut en accueillir moins si on n'a pas la capacité de les accueillir?
Mais on peut en accueillir moins, on peut en accueillir plus. Ça dépend des décisions que l'on fait collectivement. Encore une fois, je vous ramène au fait qu'on s'en va là, vers 2 travailleurs pour 1 pour payer les fonds de retraite. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, des gens physiquement, là, ils sont maganés. Là. On leur dit quoi, là? On n'a plus d'argent pour ta retraite? Non.
Je vais vous dire, je vais raconter, c'est une anecdote. Oui. Je tout de suite, là, c'est une anecdote, là, c'est pas scientifique. Je suis dans un taxi à Montréal. C'est un chauffeur d'origine tunisienne. Il est venu par les voies normales de l'immigration, il a appliqué le processus, et finalement, il est venu s'installer à Montréal. Il est un de ceux qui m'a tenu les propos peut-être les plus durs sur l'immigration. Il est dans les rues de Montréal. Il dit, les gens ne parlent pas français. Les gens vont avoir de la difficulté à s'intégrer parce que la capacité d'accueil est limitée. C'est un immigrant pour qui l'immigration, avec le volume que vous proposez, l'inquiète.
Mais là, faut faire attention. Là. Au niveau du français, puis moi, le français, je vais le défendre là, bec et ongles chaque jour, là, mais il y a plus de gens que jamais qui parlent le français au Québec. Là. Il y a beaucoup de gens qui pointent, ouais, mais pas nécessairement à la maison, il y a des gens qui parlent pas français. Oui, mais ça, c'est pas de l'anglicisation, là. À la maison, ils parlent l'espagnol comme moi, quand j'étais jeune, ou l'arabe, ou le mandarin, ou quoi que ce soit, là. Mais lorsqu'on sort de la maison, puis qu'on va travailler, puis qu'on va à l'école, puis qu'on interagit, puis on joue au hockey, puis on s'en va dans la patinoire au coin de la rue, c'est en très grande partie en français. Puis il faut que ce soit encore de plus en plus.
Je vais vous dire, si je prends, puis là, je suis votre objecteur de conscience ce matin. Mais si t'appelles chez Uber Eats à Montréal, t'as peut-être une chance ou deux chances sur trois que ça soit un unilingue anglophone qui vienne t'apporter ça.
Oui, mais c'est deux choses différentes. Ben... Parce qu'il y a des gens. Non, attendez, il y a des gens qui pointent sur le nombre de gens qui parlent français. Il y en a plus que jamais. Ok, puis la loi, sans eux, là, ça marche. Tant mieux. C'est un succès énorme ce que René Lévesque a fait, puis Lorrain. Tant mieux. Mais là, on parle qu'il y a un peu plus de gens qui parlent l'anglais. Et c'est là où ce qu'on doit intervenir, puis nous intervient avec la loi 13 au Québec, en travaillant avec Québec, pour que les gens puissent être non seulement servis, mais puissent être travaillés en français. Mais lorsqu'on me pointe dans des études, la langue que quelqu'un parle à la maison, ça fait quoi, ça? On vient-tu en 1984 checker quelle langue on parle? Parce que moi, je parlais l'espagnol, parce que je voulais la garder, cette langue-là. Mais dès que je sortais dans la rue, puis je jouais au hockey bottine, ou je m'en allais à la patinoire, ou je m'en allais au séminaire de Sherbrooke, où j'ai travaillé, là, c'est en français.
Oui, mais il y a une réalité aussi que la culture américaine, la culture anglophone attire. Puis moi, je reconnais...
Pour la planète entière, monsieur Arcand.
Moi, je reconnais la capacité, surtout des immigrants de deuxième génération, de parler français, puis de comprendre le français, puis d'être capable de fonctionner en français. Mais beaucoup, même s'ils maîtrisent le français, vivent en anglais parce que c'est la culture qui les intéresse, c'est la culture qui vient davantage les chercher.
Okay. Moi, je disais, faut faire attention. Je dis pas que vous le faites, mais un amalgame où on dit, oh, il y a beaucoup de gens qui parlent pas le français à la maison, ça veut dire que ça s'anglicise. Non, ils parlent leur langue d'origine. Deux, il y a des études qui...
Non, c'est pas ça que je vous dis.
Non, mais il y a des études qui aussi qui nous disent, qui calculent les francophones en fonction de la langue maternelle. Moi, ma langue maternelle, M. Arcand, c'est l'espagnol. Dans 30 ans, savez-vous quoi? Ça va être encore l'espagnol. Donc, je serai jamais francophone. Kim Thuy, qui est une femme magnifique qui a gagné toutes sortes de prix, sa langue maternelle, c'est le vietnamien. Elle sera jamais francophone. Dany Laferrière. Dany Laferrière de l'Académie française, de la langue maternelle de Créole.
Okay, vous donner un autre
exemple. Il sera jamais francophone. C'est ça.
Ce que j'essaie de vous dire.
Il faut être intégrer les gens. Faut avoir ce discours d'ouverture-là.
Absolument.
On est tous francophones, indépendamment de notre langue.
Ce que je vous dis, c'est que, il y a 25 ans, je suis assez vieux pour dire ça, là, dans des commerces au centre-ville, je pouvais me faire servir en anglais, et la personne était incapable de me dire un mot en français. Ouais. Aujourd'hui, je me fais accueillir souvent en anglais, mais la personne est capable de me servir en français. Il y a eu un changement. Mais ce que ça montre, c'est la force d'attraction de l'anglais. C'est
absolument.
Juste ça que je dis.
Nous, absolument, vous avez raison. Et c'est à nous de contre-réagir. Le fédéral, Québec, ensemble. Parce qu'on veut pas moins de français, on veut plus de français où travail est partout. C'est pourquoi on a déposé le projet de loi C-13. C'est pour ça qu'on travaille avec Québec là-dessus.
OK.
On est d'accord, M. Arcand, là-dessus, totalement.
Pas surtout.
OK.
C'est le ministre du patrimoine, lieutenant du Québec aussi, Pablo Rodriguez.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On revient sur le dossier de ces plateformes d'hébergement. En particulier Airbnb. D'abord, si j'ai bien compris, ils ont été invités à la commission parlementaire, puis ont décidé de pas se présenter. On les a invités à venir répondre à nos questions, puis ils ont décidé aussi de pas répondre. Et hier, on a senti dans la seule entrevue qu'ils ont accordée à la presse canadienne, c'est de prendre le ballon puis de le tirer dans le cours du gouvernement en disant, nous autres, on est un site, on prend les annonces, puis c'est aux fonctionnaires de venir voir si c'est légal ou pas. La ministre du Tourisme est avec nous, Caroline Proulx. Caroline Proulx, bonjour.
Bonjour, M. Sacquin.
Êtes-vous étonné de voir qu'ils se sont pas pointés à la commission parlementaire?
La vérité, pas de miettes. Vraiment pas étonné. Puis là, où je vous dirais où je suis vraiment, mais vraiment insulté par Airbnb, c'est qu'ils me demandent le statu quo. Ça va être non. On leur a donné moult chances par le passé de se conformer. On leur a demandé, s'il vous plaît, publier des annonces qui ont le numéro d'enregistrement qui était mis par le mandataire du ministère du Tourisme. Ça, c'est pas grand-chose à leur demander. Ils ont refusé. Maintenant, je trouve ça dommage parce que Airbnb aurait pu venir bonifier les échanges en commission parlementaire. Il y a peut-être des éléments intéressants qu'Airbnb aurait pu déposer sur la table en commission parlementaire pour bonifier le projet de loi. Or, il se présente pas, puis je suis pas vraiment surpris.
OK, mais vous avez rencontré les gens d'Airbnb là quand la crise a éclaté. Ouais. C'était quoi la réaction ou la relation, les échanges que vous avez eus avec eux?
Ouais, je peux pas tout vous partager. Je vais juste vous dire que ça a été un entretien qui a été corsé. Vous me connaissez un peu. J'ai eu un petit côté de Lyon cette journée-là où je leur ai demandé. En fait, je vais vous le donner en primeur. Quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, je vous donne une semaine pour enlever toutes les annonces illégales sur votre site. Une semaine. Le lendemain matin, mon cabinet m'appelle en urgence en me disant, Caroline, Airbnb vient d'émettre un communiqué comme quoi que là, ils vont agir immédiatement. Donc, ils agissent plus rapidement que ce à quoi je leur avais demandé. Maintenant, tu sais, je leur ai demandé s'ils considéraient qu'ils étaient des bons citoyens corporatifs. M. Arcan, ils m'ont répondu oui. Je suis pas d'accord avec les autres.
OK, mais donc il y aura pas de modification là dans les règlements puis dans les items du projet de loi, c'est-à-dire que c'est à l'hébergeur, à celui qui prend l'annonce, de vérifier qu'elle est légale puis conforme à la réglementation du Québec.
On leur a dit vous allez devoir vous assurer que ce que vous publiez est valide. On avait dit qu'on allait responsabiliser les plateformes, ben c'est leur responsabilité de s'assurer que ce qu'elles publient, ce qu'elles mettent en ligne, que les annonces sont enregistrées. Il me semble que c'est pas beaucoup demandé aux plateformes. Les autres vont s'y soumettre. VRBO a déposé un mémoire. Les commentaires sont positifs. Ils disent qu'ils vont se soumettre à la loi du Québec. Maintenant, Airbnb décide de se mettre en retrait. C'est leur prérogative.
Mais je trouvais que hier, puis leur position de façon générale, là, c'est comme si vous êtes propriétaire d'un bar. Puis l'âge légal, c'est 18 ans, puis que le propriétaire du bar dit « Moi, je laisse rentrer tout le monde, puis c'est à la police de venir voir s'il y a des mineurs qui sont là. »
Ben, ils peuvent l'interpréter de la façon qu'ils voudront, là. Le message est clair. Voici le carré de sable dans lequel les plateformes transactionnelles devront opérer prochainement. C'est ça et c'est tout. Alors, si vous ne souhaitez pas vous conformer aux règles du Québec, ben, je vais vous le dire en clair, allez faire affaire ailleurs qu'au Québec.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Salut.
Au revoir. Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme. Et je rappelle qu'on a invité Airbnb, qui ont, je dois le dire, une attitude, une arrogance assez spectaculaire. Là. Ils lèvent le nez, ne parlent qu'à la presse canadienne parce que c'est Canadian, que c'est à travers le pays. Et ils sont pas capables de venir défendre un point de vue. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Alors, ça vous donne un peu l'envergure de l'entreprise, c'est-à-dire assez bas de gamme. Et assez arrogant dans ses relations avec les citoyens, avec les médias, puis avec le gouvernement. C'est pas très, très édifiant.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.